Le MAG de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement, une émission en partenariat avec le ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur Radio Territoria.
Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver en direct sur Radio Territoria avec ce MAG de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement. Mes amis, qu'on se le dise, la France bouge et se modernise, vous le savez, à partir du 1er janvier 2022. C'est demain, hein, rassurez-vous, c'est demain, c'est même peut-être hier. Toutes les communes de plus de 3500 habitants seront tenues de recevoir et d'instruire les demandes de permis de construire par voie dématérialisée. Vaste projet pour une mise en œuvre exceptionnelle et complexe qui n'a qu'un but, faciliter votre quotidien. Faciliter la compréhension de ce projet est aussi l'objectif de notre MAG. Dans la dernière partie de notre émission, vous pourrez poser vos questions à nos deux spécialistes qui m'accompagnent encore une fois aujourd'hui. Bonjour à Michel Phelep, bonjour, bienvenue.
Bonjour Billy, bonjour à tous, ça va bien.
Vous êtes aux commandes de toutes les questions de nos auditeurs. Je rappelle Michel que vous êtes chargé de mission animation territoriale DHUP-DGALN et à vos côtés Jean-Baptiste Lannes. Bonjour maître.
Bonjour maître. Bonjour Billy.
Merci d'être avec nous, vous êtes directeur du programme des maths ADS. Je dis maître parce que la thématique aujourd'hui est encore très complexe et grâce à vous on va y voir plus clair.
Le MAG de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement, la thématique du MAG.
Alors mon cher Jean-Baptiste, le mois dernier, vous nous avez présenté le programme de dématérialisation de l'application du droit des sols, dit programme DEMAT ADS, qui, je le rappelle, vise à dématérialiser l'ensemble de la chaîne d'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme, depuis le dépôt de la demande par le pétitionnaire jusqu'à la réalisation de son projet. Alors ce programme de dématérialisation répond aux obligations, on le rappelle, de la loi Élan, qui oblige les communes de plus de 3500 habitants à disposer d'une téléprocédure spécifique leur permettant de recevoir et d'instruire sous forme dématérialisée leurs demandes d'urbanisme au 1er janvier 2022. On n'ira pas au-delà. Alors aujourd'hui, nous allons évoquer ensemble les grandes étapes du programme et plus concrètement la manière dont les collectivités peuvent ou doivent commencer dès maintenant à se préparer pour être prêtes à ce fameux 1er janvier 2022. Alors Jean-Baptiste, toute première question, elle s'impose. Quelles sont les grandes étapes d'ici le 1er janvier ? Et je compte sur vous pour être extrêmement précis et concret.
Alors, merci Billy de cette première question. La première des choses, c'est de rappeler que la loi Élan, elle est somme toute très récente puisqu'elle date de fin 2018. Et donc, on dispose de trois années, 2019, 2020 et 2021. Donc, ce que nous allons faire, c'est ce que en 2019, nous avons fait des études, j'y reviendrai. En 2020, nous réalisons les différents outils, nous reviendrons sur les outils. Et en 2021, nous allons réaliser le déploiement. C'est un peu simpliste, mais au moins, c'est schématique. Alors en 2019, qu'est-ce que l'on a fait dans ces fameuses études ? Globalement, on s'est mis d'accord entre tous les partenaires sur les solutions qu'on allait mettre en œuvre, ça c'est un premier sujet. Et puis on a travaillé à la standardisation, je l'avais déjà un peu évoqué, pour que tous les systèmes communiquent entre eux, il faut qu'ils puissent parler le même langage. Et il y a eu un gros travail avec tous les partenaires sur cette standardisation, qui est maintenant est acceptée, qui rentre dans les outils. En 2020, donc là, on va construire les solutions. On est sur une démarche itérative et progressive en six grands jalons. Chaque jalon correspond à une population et puis on raccorde des populations à nos différentes solutions et puis on est sur un périmètre. Alors pourquoi on fait ça ? Parce qu'on s'est dit que le grand soir, c'était un peu compliqué d'attendre le dernier moment pour construire la solution qui marche. Ça ferait surtout usine à gaz et on avait envie progressivement de valider que la solution fonctionnait. Et on le fait aussi parce que ça nous permet au fur et à mesure de faire des retours d'expérience sur ce que l'on constate concrètement, on y reviendra, et d'améliorer notre accompagnement, les outils de conduite du changement. Donc six grands jalons, sachant que la véritable complexité, c'est le nombre très important d'acteurs impliqués.
Ouais, ils sont nombreux. Hein.
Ils sont nombreux et très divers. Nous avons des collectivités territoriales et les collectivités territoriales sont très diverses et sont relativement nombreuses. Nous avons aussi des grands ministères comme le ministère de la Culture, le ministère de l'Intérieur. On a les préfectures, les services déconcentrés pour le contrôle de l'égalité, des services consultables extérieurs, comme je l'avais évoqué. Donc on a vraiment beaucoup, beaucoup d'acteurs. Et donc on ne peut pas imaginer que tout le monde soit à l'heure en même temps. C'est pour ça qu'on a réalisé plusieurs jalons. Et puis ces phases d'expérimentation, donc pendant toute l'année 2020, on a déjà commencé, nous permettent de valider concrètement, je dirais, de toucher du doigt les difficultés et de valider aussi les solutions. En même temps qu'on construit les outils informatiques, on construit aussi les outils d'accompagnement du changement. Pour l'année 2021,
donc, qui arrive
dès le 1er janvier, nous avons plusieurs objectifs. Le premier, c'est d'accompagner les collectivités territoriales avec tous nos partenaires pour qu'elles se raccordent le plus aisément possible et qu'elles puissent honorer finalement les obligations liées à la loi Elan que vous avez très bien rappelées dans votre introduction.
Grâce à vous.
Je vous remercie.
Et au premier épisode que nous avez donné il y a un mois.
Je vous remercie. Le deuxième sujet, c'est de mobiliser l'ensemble des services consultés pour qu'ils se raccordent aussi. Il y a pas, comme on l'a dit, il n'y a pas d'obligation, mais il y a un moment où tout va passer par plateau, donc il faut que les services consultés, que ce soit les services ministériels, des services décentralisés ou encore des services privés, se raccordent à plateau pour que tout fonctionne correctement. Et le troisième sujet que nous n'avons pas fait encore, c'est d'informer le public, en particulier les pétitionnaires, de cette transformation. On a préféré informer d'abord les acteurs qui étaient en première ligne, c'est-à-dire les collectivités territoriales, qu'elles se familiarisent, qu'elles comprennent bien le programme, qu'elles en voient toute la portée, toutes les difficultés. Et une fois qu'on aura bien informé, il faudra qu'on communique, pas forcément nous directement, ça peut être les collectivités, mais il y a un moment, il faudra que les pétitionnaires sachent, puissent connaître, puissent savoir qu'ils peuvent déposer leur dossier de manière dématérialisée. Avec une cible particulière qui est pour nous extrêmement importante, ce sont les professionnels de la construction. Que ça soit les architectes, que ça soit les aménageurs, que ça soit les promoteurs ou même des artisans qui, pour un pétitionnaire, font les démarches vis-à-vis de la mairie. Tous ces professionnels auront une capacité de déposer de manière dématérialisée beaucoup plus importante que le particulier. En tout cas, on l'imagine et c'est ce qu'on constatait aussi des collectivités qui sont déjà équipées pour la dématérialisation.
Alors, si j'ai bien compris, on va passer à d'autres questions, mais à partir du 1er janvier 2021, le compte à rebours est lancé.
Alors, oui.
Oui, d'accord.
C'est plus compliqué que ça, au sens où on est déjà en expérimentation, et puis je vais pouvoir vous livrer un scoop, plutôt une bonne nouvelle. En tout cas, pour nous, c'est vraiment une première étape. C'est qu'on a mis en place une première version de notre plateforme d'autorisation d'urbanisme plateau. Vous savez, c'est ce hub qui permet de recevoir l'ensemble. On en a mis en place en production le 9 juillet dernier. Donc on est très content. On a travaillé d'arrache-pied avec la direction départementale des territoires et de la mer de Loire-Atlantique et avec une communauté d'agglomération qui est celle de Cap Atlantique, de la presqu'île de Guérande, et on a validé le fait que ça marchait et on l'a mis en production. Ça veut dire que nous, notre première étape, elle est faite, et maintenant, on travaille d'arrache-pied pour que les collectivités territoriales, pour travailler avec des collectivités territoriales expérimentatrices, pour qu'elles se raccordent à plateau.
Alors, Jean-Baptiste, le premier jalon d'expérimentation est en cours. Ouais. Comment ça se passe? Parce qu'il y a eu quand même une inconnue qui n'était pas prévue, c'est la crise sanitaire.
Alors, ça... Ce premier jalon, il vient d'arriver avec le 9 juillet. Mmh. On aurait voulu que ça soit plutôt en mars.
Voilà. C'était compliqué en mars.
Là, c'était un peu plus compliqué en mars. On a pris un peu de retard. On a toujours, et c'est bien logique quand vous êtes à la tête d'un programme comme ça, des plannings qui sont ambitieux pour pouvoir mesurer l'avancement ou le retard, clairement. Mais on est déjà très satisfait d'avoir notre plateforme. Et nous, on est disponible pour les raccordements de l'ensemble des collectivités territoriales. Donc, ça a été un peu compliqué, mais on avance très, 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 très hardiment. Donc on est plutôt content de cette première mise en production et on travaille déjà aux étapes d'après.
Alors, moi je voudrais déjà vous féliciter pour cette première étape, mais les enseignements de cette première étape, il y en a déjà ou pas?
Alors, c'est un peu tôt par rapport au 9 juillet. Néanmoins, quand même, il y a des constats. Se raccorder à plateau, c'est pas extrêmement facile. donc à notre plateforme. Pourquoi ? Parce que la démarche est compliquée, comme les CERFA, pour nos auditeurs, ils les connaissent certainement mieux que moi, les CERFA sont compliqués, donc transférer des dossiers de cette nature, c'est compliqué, et puis ça ne se fait pas, je dirais, directement, il y a vraiment des échanges entre plateaux et les outils. Donc ça, on s'est aperçu que c'était compliqué et que ça a mis du temps. Et on a travaillé avec les éditeurs de solutions pour les collectivités territoriales, et ils ont produit un gros investissement pour y arriver. Par contre, le deuxième enseignement, c'est que nous, ça nous a permis de nous aguerrir cette première étape et on sait bien mieux accompagner les partenaires qui doivent se raccorder. Clairement, on avait une méthode un petit peu lâche et on s'aperçoit qu'il faut avoir une méthode beaucoup plus... faut marquer à la culotte, si je puis me permettre cette expression, le partenaire pour s'assurer qu'il comprenne bien. Et donc, c'est ce qu'on va faire avec les futurs partenaires qui voudront bien se raccorder avec nous. Donc, on a déjà des enseignements, pas forcément sur la réalité métier, clairement. Ça, c'est plus la crise qui nous a fait quelques enseignements, mais plutôt sur la méthodologie projet pour raccorder les partenaires.
Alors, tout à l'heure, vous nous avez parlé de plusieurs jalons. La prochaine étape, c'est quoi ?
Alors,
les
prochaines étapes, très, 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 très rapides, c'est on continue à travailler avec 12 directions départementales des territoires et de la mer, donc 11 et celle de Loire-Atlantique, ainsi qu'un certain nombre de collectivités que je remercie, si elles nous écoutent, expérimentatrices pour se raccorder et vérifier le bon fonctionnement et j'allais dire commencer finalement des premières étapes du déploiement. Donc ça, c'est, on espère qu'en septembre, on aura pas que, j'allais dire Cap Atlantique qui est raccordé, mais qu'on aura d'autres collectivités. Et c'est en bonne voie, on a des collectivités très motrices, que ce soit des communes, des métropoles ou des communautés. Et après, on va commencer à raccorder les autres partenaires. Le premier qu'on voudrait raccorder rapidement, et on travaille avec nos cousins de la Direction Générale des Collectivités Locales, c'est raccorder les préfectures pour le contrôle de l'égalité. Puisque vous savez que les décisions sont soumises au contrôle de l'égalité, les décisions des collectivités sont soumises au... Voilà. Et on voudrait que les décisions, donc les permis de construire, les positifs ou les autorisations ou... des permis de construire, qui sont dans plateau, puissent transiter directement dans le logiciel, dans la solution numérique qui est mise en place pour les préfectures et qui s'appelle ACT. Donc ça, on espère pouvoir avancer très rapidement là-dessus. Ça a pris un peu de retard. Pourquoi ? Parce que, comme vous le savez, je crois que vous en avez parlé avec mon sous-directeur Vincent Montrieux ici même,
absolument.
Il y a eu des tas d'ordonnances et ces ordonnances ont été mises en œuvre dans les outils et la DGCL sur ACT avait les mêmes problématiques que nous, et donc ça a pris un peu de retard. Après, on travaille, alors là, pour le coup, depuis maintenant un certain temps, avec le ministère de la Culture, puisque, comme vous le savez sans doute, les services déconcentrés du ministère de la Culture peuvent donner des avis dans le cadre de l'application du droit des sols. Si vous êtes dans le périmètre d'un monument historique, vous devez soumettre votre dossier aux architectes des bâtiments de France. Vous pouvez aussi avoir de l'archéologie préventive, donc vous avez l'avis des services déconcentrés du ministère de la Culture. Et on travaille avec le ministère de la Culture pour qu'ils se raccordent à plateau, leur propre système d'information. Donc ça fait partie des travaux qu'on est déjà en cours. J'étais devant un certain nombre de services déconcentrés pas plus tard que vendredi et du ministère de la Culture pour avancer sur ces questions. Et on a lancé aussi un dernier chantier qui est avec les services départementaux incendie et sécurité, les SDIS. Oui, c'est-à-dire on mène plusieurs...
C'est de front, hein ?
De front, plusieurs chantiers. Alors, comme on a maintenant notre solution et que c'est aux autres de se raccorder, puisque notre solution est relativement stable, c'est plus simple. Nous, on est finalement le point de raccordement central. Et Plateau est déjà finalement le hub théorique, mais le hub qu'il doit être par la suite. Et les autres doivent raccorder leurs outils. Mais ça leur demande pas mal de travail en interne pour pouvoir récupérer les dossiers et puis les instruire de manière dématérialisée. C'est pas pour les récupérer et les imprimer.
Alors Jean-Baptiste, au-delà des aspects techniques et des tests, on imagine que la dématérialisation va avoir un impact sur les modes de travail, la relation aux usagers. Est-ce que ces aspects sont pris en compte dès aujourd'hui et comment ?
Alors, ces aspects sont évidemment pris en compte. Je vous remercie de cette question, parce qu'on voit bien que là, on a parlé quand même tuyauterie informatique, mais derrière la tuyauterie informatique, à chaque fois, vous changez les modes de fonctionnement, vous changez les modes d'organisation éventuellement, vous changez les circuits d'information, ça passe à droite au lieu de passer à gauche, donc vous avez besoin de vous adapter. Néanmoins, et ça c'est important, on travaille globalement à réglementation et droit constant. Chacun des intervenants garde ses prérogatives, il n'y a pas de modification, ça n'est pas amené par la dématérialisation. Donc c'est rassurant, c'est-à-dire que pour les gens, ils conservent finalement leurs responsabilités et leur métier. Ils changent la manière de le faire, mais c'est toujours le même métier. Donc pour analyser néanmoins les conséquences de la dématérialisation sur ces métiers, on a réalisé une étude d'impact très rapide. Généralement, les études d'impact, ça peut être long, on peut consulter énormément de monde, etc. Mais là, on l'a voulu très rapide, très un peu coup de poing. On a rencontré quelques-uns des interlocuteurs, on a évalué quels sont les impacts, on a discerné 5 volets. Donc un volet sur la relation au pétitionnaire, bien évidemment ça va changer la relation au pétitionnaire, sur l'organisation du travail, on imagine bien qu'on ne va pas avoir la même organisation et le même circuit d'information, sur le travail au quotidien, et ça c'est important parce que travailler devant des grands écrans c'est pas exactement la même chose, il faut avoir un minimum de savoir-faire sur la manière d'installer les postes de travail. Et puis, il y a des sujets de management aussi, donc vérifier que le management s'y retrouve dans le contrôle de l'activité, qui pouvait être un contrôle beaucoup plus physique et beaucoup plus pratique, je veux dire prosaïque, quand c'était des dossiers papier. Et en dernier lieu, il y a un chantier relatif, ou en tout cas des impacts, sur les équipements et sur les espaces de travail. Donc, voilà les 5 volets qu'on a traités. Cette étude des conséquences de la dématérialisation, on l'a fait très rapide et limitée, donc pas forcément super représentative, on n'a pas vu tout le monde, évidemment. Mais néanmoins, elle nous a permis de commencer à élaborer des plans d'accompagnement. Et l'autre volet, c'est que comme on fait des expérimentations, comme disent les jeunes, in real life, comme on fait des expérimentations avec des collectivités, on va pouvoir enrichir notre étude d'impact de ces expérimentations. Et puis, en dernier lieu, on travaille et on fait témoigner des collectivités qui ont déjà dématérialisé, en tout cas en partie, leur application du droit des sols. Donc, on bénéficie de retours d'expérience qui sont suffisants pour construire des outils.
Est-ce que vous avez senti, humainement parlant, un petit frémissement, un petit frisson dans le dos de tous les gens qui vont être concernés, ou ils se disent non, faut le faire, c'est l'avenir ? Parce que c'est quand même un bouleversement que vous proposez.
Il y a toujours une appréhension face à une évolution de ce type, clairement. Les témoignages que l'on a pu avoir, c'est que, comme on l'avait évoqué la dernière fois, c'est que la crise a obligé certains à instruire de manière dématérialisée et à trouver finalement des expédients. Et ce n'était pas très agréable parce que c'était subi et non pas préparé et anticipé. Par contre, on a quand même des témoignages de collectivités qui ont déjà dématérialisé et qui considèrent que c'est un
changement de vie total.
Ce n'est pas un changement de vie total, mais en tout cas, c'est très bénéfique.
Ah ben je le disais dans le sens positif.
Encore une fois, c'est toujours la même réglementation, c'est toujours le même métier, mais elles le font de manière plus fluide. Alors, de temps en temps, ça peut être compliqué, mais elles le font de manière plus fluide.
Alors concrètement, Jean-Baptiste, à quoi aboutit cette démarche ?
Alors, sur la conduite du changement, ça nous a permis de construire un plan d'accompagnement de conduite du changement que nous avons partagé avec l'ensemble de nos partenaires. Et ce plan d'accompagnement et de conduite du changement, il est destiné d'abord, charité bien ordonnée commence par soi-même, il est d'abord destiné à nos services déconcentrés, c'est-à-dire les directions départementales des territoires et de la mer, le cas échéant. Et donc on a un plan qui dit, voilà la formation, voilà les documents, voilà la documentation, voilà les équipements qu'il va falloir fournir. Ce plan, on en a fait un, alors, sur lequel on est moins, acteur. On a élaboré un plan d'accompagnement du changement pour les collectivités territoriales. Alors, c'est plus une proposition de plan d'accompagnement, parce que pour l'instant, on attend des validations. Hein, on a plusieurs groupes qui nous permettent de valider ces documents. Et d'autre part, nous, en tant qu'État, on n'a pas à définir l'organisation des collectivités territoriales. Donc, on est plus sûr... un certain nombre de documents qui accompagnent et qui permettent de dire aux collectivités territoriales voilà les sujets qu'il faut aborder, voilà comment ça fonctionnait avant, voilà comment ça devrait fonctionner. Mais vous avez vu, j'utilise le conditionnel parce qu'encore une fois, je suis prudent. C'est pas à moi de dire comment ça va fonctionner, mais plutôt comment ça devrait fonctionner. Et ces différents documents, ces différents packages sont regroupés en plusieurs lots, si vous voulez, avec un lot découverte, un lot embarquement et puis un lot expert qui doit permettre assez facilement à une collectivité territoriale ou à une communauté à une communauté de communes ou une communauté d'agglos d'embarquer sur le programme si elle ne l'a pas déjà fait.
D'accord.
Après aussi, on travaille avec des partenaires qui sont capables de nous accompagner aussi les collectivités territoriales. On a évidemment le CNFPT, le Centre National de la Fonction Publique Territoriale, qui va, dès l'année prochaine, proposer des formations sur urbanisme et numérique et comment instruire de manière dématérialisée. Et puis aussi, on a un partenaire de choix qui est l'UGAP. Alors, l'UGAP, je ne me souviens jamais de la signification de cet acronyme.
Vous allez nous expliquer.
Voilà, donc l'UGAP, qui est une centrale d'achat pour l'administration, et qui a prévu dans son catalogue un certain nombre d'offres, que ce soit en équipement, jusqu'en termes de prestations d'accompagnement, de réorganisation. Là aussi, pour les cas complexes, aider les collectivités territoriales à changer. En dernier lieu, pour que cette information soit diffusée, on collabore étroitement avec l'AMF, donc l'Association des maires de France, et l'Assemblée des communautés de France, donc l'ADCF, pour que ces informations, elles puissent les faire passer à leur réseau et puis qu'elles nous fassent remonter aussi les inquiétudes et les questions qui pourraient survenir.
Je ne regrette pas en introduction de ce magazine d'avoir dit que c'était un projet, une œuvre exceptionnelle et très complexe. Hein. Merci d'être avec nous. Je rappelle que dans quelques minutes, vous aurez la parole et vous poserez des questions. Mais j'ai encore la main avec vous, Jean-Baptiste. Autre question d'actualité. Les élections municipales sont désormais passées et les exécutifs commencent à se constituer. Comment faire pour que les décideurs prennent conscience de l'importance de cette dématérialisation ?
Alors, comment faire ?
Ils n'ont pas le choix, quand même.
Non, ils n'ont pas le choix, mais il y a des actions de communication à faire et Radio Territoriale en a déjà une et j'espère qu'on a beaucoup d'élus qui nous écoutent. Un des sujets, c'est que les permis de construire, c'est quand même un sujet extrêmement visible des pétitionnaires une ville, hein, que ce soit des citoyens ou des entreprises. Donc, on voit bien que dématérialiser, ça vise à simplifier et à fluidifier la relation entre les services de la commune ou de la collectivité et de la communauté et le pétitionnaire. Donc c'est quand même l'image de marque, c'est aussi la qualité de service qu'on souhaite rendre et on le voit maintenant, les communes d'une certaine taille et celles qui le peuvent ont des portails qui proposent un tas de services et de pouvoir intégrer ce service-là de dématérialisation des autorisations d'urbanisme, c'est quand même un plus.
Pour un pétitionnaire, pardon Jean-Baptiste, mais il va gagner combien de temps ? Avec cette dématérialisation.
Alors,
il n'y aura déjà pas toutes les démarches à faire, à aller dans les administrations, mais on va gagner du temps aussi.
Alors, je vais. C'est une question un peu complexe. Pourquoi ? Parce que c'est une des inquiétudes des services instructeurs comme des services consultés, que la dématérialisation s'accompagne d'une réduction des délais d'instruction pour les services administratifs. Jusqu'à présent, la dématérialisation n'est pas liée à une réduction des délais.
Non. Elle va
faciliter. On pense qu'on va avoir certainement des gains, surtout sur des gains pour le pétitionnaire, parce que sur des dossiers simples, il pourra avoir des réponses quasiment immédiatement. Il y aura les délais postaux qui ne seront plus, que ce soit les délais d'envoi ou les délais de réponse. Il va gagner en fluidité. Mais en tout cas, donc, je ne peux pas vous quantifier et il n'y a aucune obligation de réduction. On pense qu'on va constater que pour toute une série de dossiers, il y aura une des dossiers plutôt simples qui concerne généralement la grande majorité des dossiers qui sont déposés, on va constater une réduction des délais. Et ça se fera, mais c'est un constat, c'est pas une obligation. C'est ce que je voulais... C'est votre question, elle peut être entendue. Est-ce qu'il y a une obligation de réduction des délais ou est-ce qu'il y a juste... est-ce que le pétitionnaire va percevoir une réduction des délais? S'il a un dossier simple, il devrait percevoir. Après, si c'est un dossier complexe ou s'il y a besoin d'échanges, etc., il verra que les échanges seront plus simples. Mais après, il faut laisser le temps aux instructeurs d'instruire et de faire une décision de qualité.
Merci d'avoir répondu à cette question parce que c'est la première chose à laquelle on pense et je ne voulais pas qu'il y ait de malentendu. Voilà. Je vous laisse poursuivre.
Alors, comment convaincre? Donc déjà, les demandes de permis de construire, les demandes d'autorisation d'urbanisme, c'est un service... extrêmement important pour les citoyens dans une ville. Le deuxième argument pour les élus et pour les municipalités, c'est de dire un des grands bénéfices de cette dématérialisation, c'est la réduction de la non-qualité. Je l'avais évoqué la dernière fois, mais globalement, entre 30 et 50% des dossiers arrivent incomplets ou un peu faux. Et ça nécessite un travail important qui est démultiplié quand il y a des consultations à faire avec des services extérieurs à la collectivité. Parce qu'à chaque fois, c'est des allées et venues, je demande des pièces complémentaires, etc. Et donc, si on peut réduire et si on peut, voilà, ça va réduire largement le temps d'instruction, c'est à la fois de la charge en moins pour les services instructeurs et à la fois, et ça rejoint votre question,
voilà, pour les pétitionnaires.
Du temps en moins pour les pétitionnaires. D'avoir un dossier qui soit de meilleure qualité.
On n'est pas à y revenir à chaque fois, voilà. Plusieurs fois. D'accord.
Alors après, on est d'accord, ça constitue une vraie opportunité, c'est ce que j'ai essayé un peu de défendre ici. Par contre, il est clair que si on ne s'y prépare pas dès maintenant, outre le fait de ne pas être conforme à la loi, bon, mais ça, après, chacun fait, c'est selon les responsabilités, mais on risque de passer à côté de dossiers qui sont transmis par voie électronique et on n'a pas prévu de voie, et donc on risque aussi d'engorger et de désorganiser les services instructeurs.
Ce serait dommage.
Ça serait ennuyeux. On risque de générer des accords tacites non souhaités et d'accroître le risque de contentieux. Je me permets, Billy, de rectifier quelque chose que j'ai dit la dernière fois. J'ai dit que SVA, ça voulait dire saisine vaut accord. Non, c'est silence vaut accord. Donc je précise parce que j'avais dit une bêtise la dernière fois et que quand je suis revenu au bureau, tout le monde s'est moqué de moi. Donc je précise pour mes collègues, voilà, ils m'ont demandé de rectifier.
Et la prochaine fois qu'ils se moquent, vous les envoyez derrière le micro, ils verront que c'est pas si simple. J'ai une dernière question pour vous, Jean-Baptiste, avant les questions de nos auditeurs. Alors en attendant de tester le raccordement à plateau, puis de se raccorder, que peuvent initier les CT dès à présent?
Alors déjà s'informer.
D'accord.
C'est vraiment, pour les collectivités territoriales, c'est s'informer, donc en écoutant Radio Territoria, bien sûr, en regardant la page LinkedIn de la DGALN, où il y a une information assez importante, donc de ma direction générale. Et puis, alors, là, on va faire un peu, ça va être un petit peu un jeu de loi, donc un jeu de pistes pour les gens qui sont les plus intéressés. Donc, sur le site internet du ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, il y a une page qui est dédiée à la dématérialisation des autorisations d'urbanisme. Donc, c'est une page qui propose l'inscription au réseau urbanisme et numérique, et vous pouvez vous inscrire pour recevoir de l'information. Sur cette page du site internet, pourquoi, je vous allez comprendre pourquoi c'est un petit jeu de piste. Hein,
c'est sympa,
expliquerai,
ça.
Voilà.
C'est
vous
ludique.
Avez, c'est ludique, si on veut. Vous avez une présentation du programme. Cette présentation du programme, elle complète parfaitement les émissions, puisqu'elle présente en quelques diapositives, de manière très imagée, les émissions radiophoniques que nous avons réalisées le 16 juin et aujourd'hui. Et en dernière page, vous avez... un lien pour notre site collaboratif qui utilise Osmose, la solution interministérielle qui nous est proposée par la Direction interministérielle du numérique. Et dans ce site Osmose, vous pouvez faire une demande de raccordement et c'est une mine d'or d'informations. Vous avez à la fois une mallette de communication, vous avez une FAQ, vous avez un certain nombre de documents. J'allais même dire que dans ces documents, vous avez une rubrique pour les partenaires systèmes d'information qui peuvent nous écouter, où là, ils vont découvrir hein, dans des tas de documents qui leur permettront jusqu'à aller jouer avec notre version de plateau en recette, c'est-à-dire disponible. Ils pourront demander les comptes pour pouvoir aller commencer à manipuler les services que nous proposons.
Donc c'est aussi s'habituer au système, c'est ça.
Alors,
qui est pas mal.
Pour les partenaires de systèmes d'information, c'est commencer à rentrer en matière avec nous pour construire une interface. Donc c'est pas forcément notre cible principale,
mais ça existe
et nous avons, je sais que parmi nos auditeurs, nous avons des éditeurs de solutions informatiques, nous avons des services déconcentrés, donc qui peuvent trouver de l'information dans ce site collaboratif Osmose, dont ils peuvent trouver le formulaire d'inscription, je fais le chemin à l'inverse, dans la présentation qui est jointe sur la page dématérialisation des autorisations d'urbanisme sur le site internet du MCTRCT.
Il y a d'autres canaux d'information, hein ?
Oui, alors il y a bien évidemment d'autres canaux d'information. Nous avons les clubs ADS, application du droit du sol, qui sont animés par nos directions départementales des territoires et de la mer. Nous avons le CNFPT, je rends hommage à Madame Clémence Caron, j'espère qu'elle nous écoute, qui anime une communauté très importante au sein du CNFPT. On a aussi évidemment l'UGAP qui peut relayer un certain nombre d'infos et les offres qu'ils peuvent proposer au niveau de leurs acteurs locaux. Et évidemment l'AMF et la DCF avec une organisation, départementale qui permet de relayer un certain nombre d'informations.
Bon, merci en tous les cas Jean-Baptiste pour ce deuxième volet consacré à la dématérialisation. Je rappelle à tous les auditeurs qui se seraient perdus en route sur une phrase ou sur un mot que vous pouvez retrouver ces émissions en podcast sur Radio Territoria. Allez, on souffle un peu et dans un instant, les questions de nos auditeurs.
Le MAC de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement, on répond à vos questions.
C'est Michel Phelep qui est avec nous et qui centralise vos questions. Michel, est-ce que le deuxième volet de cette dématérialisation a suscité pas mal de commentaires et de questions de la part de nos auditeurs ?
Oui, Billy, nous avons déjà un bon nombre de questions qui sont tombées sur le fil. Il y a déjà beaucoup de questions sur le plan d'accompagnement, mais qui ont été posées pendant la présentation du plan. Je pense que, Jean-Baptiste, tu as bien répondu sur la manière d'y avoir accès avec le jeu de pistes qu'on trouve sur le site internet du MCT-RCT. Il y a Henri qui signale qu'il s'est inscrit en début d'année sur le site, mais qui n'a pas reçu d'infos, mais je suppose qu'il n'était peut-être pas inscrit sur Osmose. Et il y a une deuxième personne qui demande à quelle thématique doit-on se raccorder sur Osmose. C'est Fabienne.
Alors, plusieurs remarques. Alors, pourquoi un jeu de piste ? Ça m'a été dit par
supérieur.
Le chef de projet, de projet maîtriseur, il nous dit, moi je veux bien, mais je veux pas de touristes. Voilà. Un jeu de piste pour que les touristes s'égarent et qu'on ne garde que les gens qui sont véritablement concernés par la matière. Donc ça, c'était pour répondre à ça. Sur réseau et urbanisme, effectivement, depuis le début de l'année, on a pas beaucoup communiqué sur réseau urbanisme. Quand dire pas beaucoup, c'est un euphémisme. On n'a pas communiqué sur réseau urbanisme, donc navré pour notre auditeur Henri. Par contre, on va recommuniquer, on va lancer une newsletter, je pense, qui partira en septembre. Par contre, le mieux concernant la dématérialisation de l'application du droit des sols, c'est quand même de s'inscrire sur Osmose. Alors, sur Osmose, pour répondre à notre auditrice, le site qu'il y a à la fin de la présentation, le lien, c'est un formulaire, et ce formulaire donne accès à la partie d'Osmose, au site collaboratif dédié à l'application du droit des sols, c'est-à-dire dédié au programme DEMAT-ADS.
Voilà, Michel, merci pour ces premières questions qui tournaient autour du dernier sujet abordé, comme quoi, vous voyez, quand je vous ai dit que c'était ludique et qu'on allait pouvoir peut-être, entre guillemets, s'entraîner, c'est très important pour la suite. Michel, d'autres questions ?
Oui, j'ai commencé par celle-là parce que c'était celle, les dernières tombées, mais les plus nombreuses. Je vais reprendre les premières questions qui sont tombées. Une première question de monsieur ou madame Châtenay qui demande si les professionnels auront un accès différent.
Alors, ça c'est intéressant, mais ça me permet de rappeler que quand on parle de professionnels, on va parler plutôt des gens qui déposent des demandes d'autorisation d'urbanisme. Donc on va parler de professionnels. En tout cas, dans mon acception, professionnel, c'est architecte et promoteur ou aménageur. Donc ces professionnels, ils n'ont pas d'accès direct à Plateau.
D'accord.
Alors, ça me permet de dire que Plateau est une plateforme qui est accessible depuis les outils des collectivités territoriales. Donc, les professionnels devront se connecter aux outils des collectivités territoriales. Parce que le guichet unique existe toujours.
Et ce sera facile pour eux de se connecter ?
Ah ben, les outils qui sont proposés, donc de saisine par voie électronique, sont plutôt des outils simples. Hein, je veux pas, pour travailler avec les éditeurs à l'heure actuelle, ils font en sorte que ça soit simple, qu'on retrouve le CERFA, qu'on puisse remplir ces CERFA, et puis qu'on puisse après qu'on puisse le déposer, qu'on puisse faire ce dépôt directement au guichet unique dématérialisé de la collectivité. Ce dossier est transmis à Plateau, mais il n'y aura pas d'accès à Plateau direct. Je n'évoque pas, mais on fera peut-être une émission particulière sur l'outil qu'on a mis en place avec la direction de l'information légale et administrative, donc la DILA, qui s'appelle Assistance à la demande d'autorisation d'urbanisme, qui est un outil qu'on a développé, mais qui n'est, lui, pas véritablement dédié aux professionnels, parce que c'est un outil qui est plutôt lié aux non-sachants, c'est-à-dire les pétitionnaires, quand ils ont un dossier relativement simple à déposer.
Michel.
Nous avons une question de Nathalie, de la DDTM 2A, donc en Corse, qui nous demande s'il est trop tard pour être une administration test, et sinon, quelles sont les démarches à effectuer pour s'inscrire ?
Alors, ça c'est une question de Radio DGALN, pas une question de Radio Territoriale. Alors, Radio DGALN, pour nos auditeurs qui ne font pas partie de l'administration, c'est la radio que Michel a mis en place pour discuter avec les services des concentré. Donc c'est les prémices internes de Radio Territoria comme on l'a à l'heure actuelle. Mais je vais répondre à
Oui, parce que moi j'aime beaucoup la question.
Voilà.
Hein.
Je vais répondre à la collègue de Corse. On a déjà 24, 12 et 12 DDT qui sont des DDT expérimentatrices qui se sont portées volontaires. Je ne pense pas que l'on fasse un autre appel à candidature. Mais ça me permet de dire que courant le quatrième trimestre, on va travailler au déploiement de nos solutions, hein, comme je l'ai évoqué pour préparer les déploiements en 2021, et que je vais rassurer notre auditrice de Corse, ça ira très vite et elle pourra tester en 2021, voire même utiliser la solution interne, puisque ADS 2007, je ne l'ai pas précisé, notre solution d'instruction et de fiscalité est raccordée d'ores et déjà à Plateau.
Mais ça prouve que toutes les régions sont vraiment très intéressées pour faire partie de la première vague, si je peux m'exprimer ainsi, de cette dématérialisation. Michel.
Alors une question sur les circuits d'instruction. Un dépôt de dossier dématérialisé au service mutualisé sera-t-il permis réglementairement ? Ceci dans la mesure où le pétitionnaire pourra déposer directement d'ado à Plateau sans passer par le guichet unique communal. Est-ce que ce sera possible ?
Alors, je vais répondre, la réponse est non. L'étape du guichet unique est essentielle. Et la réponse est non. Et quand on a imaginé, puisqu'il y a eu des études là-dessus, sur le sujet de est-ce que c'était vraiment nécessaire, est-ce qu'il ne fallait pas fluidifier en supprimant cette étape, les communes qui sont nos partenaires nous ont dit non. Donc on a écouté les communes et on a fait bon, bah, on reprend cette belle idée, on la met sous le bras et on repart avec. Donc voilà, la réponse est on peut informatiquement la rendre extrêmement fluide. Il peut y avoir des guichets uniques qui cochent le petit bouton qui dit que quand ils reçoivent un dossier, c'est immédiatement retransmis au centre instructeur. Voilà, ça peut être simulé ou émulé sur des systèmes d'information. Mais par contre, il y aura toujours à un moment le fait qu'il y a un dépôt qui est fait au guichet de la commune.
Mmh. Michel, d'autres questions aussi ciblées, pertinentes, hein, c'est pertinent hein, ce qu'il te demande ce matin. Et
oui,
bravo quand
fait.
Même à Jean-Baptiste, hein, il a toutes les réponses.
Ça, j'en doute pas. On a une question un peu plus large hein, qui demande si des textes réglementaires ne devraient pas compléter la loi Elan sur l'archivage, la signature du pétitionnaire ou l'élu dans la procédure dématérialisée. C'est une question de Henri.
Eh bien, encore un Henri. Les Henri posent beaucoup de questions. Eh bien, la réponse est oui. Là, pour le coup, on est en train de travailler sur au moins deux textes. Un décret qui vise à prendre en compte la dématérialisation dans le code de l'urbanisme. Donc ça, c'est important, hein, parce que, par exemple, dans le code de l'urbanisme, il dit que le dossier doit être rendu en 5 exemplaires. Bon, on ne va pas demander aux pétitionnaires de cliquer 5 fois sur « envoyer le dossier ».
Ben non.
Non, ça serait un peu bêta. Et donc ça, on va écrire qu'on peut s'en abstenir. Et puis, on a aussi un arrêté d'application pour la téléprocédure. Et on va certainement avoir un deuxième arrêté pour la transmission des documents, des dossiers, de manière dématérialisée. Donc, il y a un certain nombre de textes qui sont en cours d'écriture. Moi, j'ai des collègues qui travaillent sur ces questions-là en ce moment même. Notre bureau réglementaire est très, très, travaille beaucoup sur ce sujet. Et on va pouvoir consulter au sein de notre programme tous nos partenaires que j'ai évoqués pour savoir si ce qu'on écrit fonctionne. Ça, on espère pouvoir le faire à la rentrée. Et donc, pour répondre complètement, on devrait avoir une parution des textes, une fois qu'on a fait nos consultations pas officieuses, mais en tout cas informelles dans le cadre du programme, on devrait être sur une parution des textes fin du premier trimestre de cette année, de l'année prochaine, 2021.
Il nous reste 5 minutes hein, pour ce max. Si vous avez une idée en tête, vous n'avez pas encore posé la question, c'est encore possible. Michel, le standard.
Oui, donc une question de Cécile. Est-ce que le dépôt d'un dossier par un pétitionnaire sur la plateforme pourra être enregistré s'il manque une pièce ?
Ouh !
Alors, je vais essayer de répondre et je vais pas dire de bêtises, mais alors, déjà, c'est vraiment intéressant. Je vais essayer de reformuler la question. Imaginons le pétitionnaire va dans une commune, on va prendre à Montpellier, et il dépose, j'essaye d'être concret pour me l'imaginer, donc il dépose son dossier, mais il manque un plan, alors que c'est prévu, il manque une coupe, etc. Donc, comment ça se passe quand c'est papier ? Normalement, l'instructeur reçoit le dossier, l'examine, s'aperçoit, et donc il y a ce qu'on appelle la lettre du premier mois, mais qui intervient généralement avec le premier mois, où on demande des pièces complémentaires. Voilà. Et le pétitionnaire a un certain délai pour fournir cette pièce complémentaire. Ça, c'est la voie papier. Eh bien, la voie dématérialisée, c'est exactement la même chose.
Donc, rapide.
Alors, j'espère en plus rapide. On reçoit le dossier, le service instructeur, donc il est inscrit au guichet unique, hein, il tombe dans le guichet unique, et le service instructeur regarde et s'aperçoit qu'il manque un plan. Donc il peut faire une demande hein, par le biais des outils dématérialisés qui peuvent exister dans la commune ou dans la communauté. Mais le dossier, il aura été envoyé à plateau, parce que c'est une obligation. Donc il aura été envoyé à plateau et il va être complété dans une version complète avec la pièce qui sera transmise par la suite. Et on enregistrera bien que le dossier a été, envoyé le 17 juillet, que la pièce complémentaire a été envoyée, un mois plus tard, donc le 15 août. Donc on enregistre bien, pour répondre, on enregistre bien sur la plateforme tous les dossiers tels qu'on les reçoit, et après ça suit son cours, et à chaque évolution, on enregistre les évolutions du dossier. C'est important parce que les services consultés éventuellement, eux, ils ont besoin de savoir quelle est la version du dossier sur lequel ils ont travaillé. Est-ce qu'ils ont travaillé sur la version incomplète, qui doivent leur sembler aussi incomplètes, ou est-ce qu'ils ont travaillé sur la version complète ? Et ça, ils pourront s'en apercevoir. Tous les échanges, tous les objets
seront
datés.
Jean-Baptiste, donc on a compris, c'est possible qu'on puisse oublier une pièce dans un dossier, mais ça ne veut pas dire que c'est la porte ouverte et qu'à chaque fois, vous allez oublier des pièces. Hein.
Ah non,
on est bien d'accord.
On est tout à fait d'accord.
On est dans l'exception quand même.
On est tout à fait d'accord. C'est pas... Alors, comme je vous l'ai dit, à l'heure actuelle, ce n'est pas l'exception. Hein. C'est 30% à 50% des dossiers qui arrivent incomplets. Alors après, il y a de l'incomplétude parce que l'interprétation, c'est dire on veut un plan, il n'y a pas cette photo. Bon, c'est pas une incomplétude qui est forcément qu'on résoudra avec la dématérialisation. Hein. C'est pas une non-qualité qu'on résoudra avec la dématérialisation. Une part, oui, mais pas la totalité. Il reste un moment, c'est des dossiers qui sont compliqués, c'est des investissements importants. Pour la collectivité, ben, l'urbanisme, c'est un sujet extrêmement crucial, donc c'est normal que l'instructeur soit amené, s'il n'a pas les éléments, à demander au pétitionnaire de compléter sa proposition ou de la préciser sur un certain nombre de points. Mm-hmm. Donc il restera cet échange. Après, ce qu'on espère, et ce que tout le monde espère, c'est que le temps qu'on va gagner, c'est ce que je disais la dernière fois, le temps qu'on va gagner dans l'économie de tâches administratives, absolument, de ressaisie, etc.
On pourra le consacrer à d'autres choses.
Et dans l'autre chose, c'est la préparation et l'accueil, absolument, du pétitionnaire avant qu'il dépose.
Michel, toute dernière question. Alors, à moins qu'il y en ait vraiment deux qui se dégagent et qui soient énormes, mais faut bien la choisir, celle-ci.
Donc il y a juste une dernière question, mmh, de Patrick et Bertrand qui demande des nouvelles sur le transfert de la taxe d'aménagement à la DGFiP, la Direction Générale des Finances Publiques, dans le cadre de la DMAT ADSF. Quid de la liaison plateau à la DGFiP?
Alors, moi je vais répondre. Donc il y a en ce moment le Premier ministre l'année dernière a décidé du transfert de la liquidation, donc le calcul de la taxe d'aménagement, à la DGFiP. Donc les deux ministères en ce moment travaillent sur un calendrier, sur des modalités, que ce soit des modalités réglementaires ou que ce soit des modalités opérationnelles. Voilà. Et il y a bien évidemment un chantier système d'information. Clairement, Plateau, quand il va brasser les dossiers, il est disponible pour toutes les administrations qui auront des besoins d'en connaître. Donc si à un moment on s'aperçoit que la DGFiP a besoin d'avoir les informations une fois que c'est elle qui liquide, on va bien sûr lui transmettre les informations qui nous seront fournies. Ça me permet de rappeler, en fait, de dire ce que c'est qu'une DENSI. C'était un des sujets que je n'avais pas dit la dernière fois. Qu'est-ce que c'est une DENSI? Alors la DENSI, c'est la déclaration des éléments nécessaires pour le calcul des impositions. Ben, ces éléments-là, on les a et on les transférera à la DGFiP le cas échéant.
Et ben voilà, en tous les cas, merci à tous les auditeurs qui étaient encore une fois très nombreux pour poser des questions. Merci à Jean-Baptiste Lannes, directeur du programme DMAT ADS, d'avoir été avec nous et si clair encore une fois ce matin. Et à Michel Philippe qui était là pour vos questions. Les amis, on se retrouve à la rentrée.
Oui, on fera des émissions thématiques, oui, et on aura certainement des invités.
Et ben voilà, ça c'est une superbe nouvelle. Merci à tous, bel été. Continuez d'être fidèles à tous les programmes qu'on vous propose, notamment sur Territoria. Ça va prendre de l'importance. Merci et rendez-vous en septembre. Ciao.
Le MAC de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement, une émission en partenariat avec le ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales. À réécouter et télécharger sur radioterritoria.fr et sur tous les agrégateurs de podcasts.